Jean Chrysostome Kété, bonjour.
Bonjour.
Dans quel état se trouve aujourd'hui l'hôpital de l'Amitié?
Je vous remercie pour m'avoir tendu votre micro pour situer la population sur l'état actuel de l'hôpital Amitié. L'hôpital Amitié a été construit en 1987 et cet hôpital avait présenté quelques défaillances après 10 années de fonctionnement et il a été réhabilité en 2010. Et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, nous avons travaillé dans des conditions peu confortables parce que l'édifice commençait à présenter quelques dégradations par-ci par-là. Et à l'heure où je vous parle, l'hôpital mérite vraiment des travaux de réhabilitation, sinon de retouches sur bon nombre d'édifices. Dans plusieurs services, vous allez vous rendre compte que il y a des fuites d'eau, la toiture ne présente plus un état agréable pour permettre à ceux qui occupent les lieux d'être en sécurité pour bien travailler. Ça veut dire que pour l'instant, l'hôpital présente franchement un état qui mérite une réhabilitation.
C'est vrai, l'hôpital présente un état qui mérite une réhabilitation, mais les salles, les lits, tout cela couronné par des mauvaises odeurs. Qu'est-ce qui explique cela?
Ici, l'état de dégradation, il y a beaucoup de phénomènes qui rentrent dedans. J'ai parlé tout à l'heure de la toiture. Il faut aussi parler des circuits d'eau qui sont bouchés un peu partout pour que les services puissent fonctionner. Il faudrait que les déchets qui sont produits dans les différents services soient évacués. S'il y a l'eau qui permet cette évacuation. Donc, tous les circuits sont bouchés. Ça fait que les sanitaires sont aussi bouchés, ne fonctionnent plus. Et les patients sont parfois obligés de descendre. Ceux qui sont en étage, de descendre jusqu'au rez-de-chaussée, là où il y a les douches externes pour faire leurs besoins. Et donc, c'est tout ça là qui conditionne l'état de dégradation avancé de l'hôpital avec les odeurs dont vous faites mention.
Face à cet état de délabrement avancé, que préconisez-vous?
Bon, notre cri à travers le ministre de la Santé a été entendu par nos partenaires de la République populaire de Chine qui ont accepté de procéder à la réhabilitation de l'hôpital. Et donc, les documents ont été signés des mains de l'autorité du ministère de la Santé. Et donc, nous attendons une équipe qui pourra venir essayer de faire l'évaluation pour voir dans quelle mesure procéder à cette réhabilitation pour remettre vraiment l'édifice dans des conditions confortables.
Et à quand commenceront les travaux?
Bon, ça dépend. Ça dépend de la programmation des partenaires. Ils ont aussi leur programmation. C'est quand ils vont se décider de venir qu'ils nous expliqueront comment on va procéder à cette réhabilitation. Est-ce que on va évacuer les malades ou bien on va procéder séquence par séquence, c'est-à-dire toucher une partie, un pavillon et prochainement toucher l'autre pavillon. Donc tout ça là, ça dépend de nos partenaires qui eux-mêmes ils vont fixer la date de démarrage des travaux.
Des parents, des malades déplorent les ventes illicites des médicaments par quelques personnels soignants. Ils avancent comme raison le manque de médicaments à la pharmacie. Vous êtes au courant de ces pratiques?
Bien évidemment, je pense que vous de la presse, vous êtes impliqués dans tout ce que nous faisons ici. Pas plus tard que, je crois, le mois passé, vous avez été informé des actions que nous avons menées au sein de l'hôpital pour appréhender les produits qui sont détenus de manière illégale. Un médicament, c'est d'abord du poison. C'est du poison qui soigne, qui guérit. Et quand on ne garde pas les médicaments dans les conditions optimales, dans les conditions requises, ce médicament devient véritablement du poison qui tue. Et ce qui paraît un peu bizarre, c'est que lors de nos tournées, les parents des malades que nous abordons nous rassurent qu'ils sont bien reçus, on ne leur vend pas de médicaments. Mais c'est après, c'est d'autres sources qui nous portent ces informations-là que voilà, il y a des produits qui sont en train d'être vendus.
Comment comptez-vous lutter contre ce phénomène très décrié dont les auteurs sont dans vos services?
La lutte, nous avons déjà démarré par la sensibilisation. Et nous avons vu que la sensibilisation n'a pas porté son fruit. Et donc, il est question, d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Nous avons les textes qui sont là qu'il faut appliquer. Quand quelqu'un prend des médicaments qui vont, ce n'est pas déontologique, c'est proscrit par la réglementation. Et donc, sur le plan disciplinaire, nous prenons des mesures. Et sur le plan judiciaire, nous saisissons également les instances pour que justice soit faite, pour que, en tout cas, la population soit en sécurité.
Un autre constat, c'est l'absence du personnel soignant qualifié aux côtés des malades. Ceux-ci préfèrent être dans leur cabinet privé que d'être ici. Comment comptez-vous y prendre?
Nous sommes dans un hôpital. Un hôpital, par définition, c'est une structure qui donne des prestations et qui donne également des enseignements et qui procède également à des recherches sur le plan santé publique. Donc, ce que nous voulons dire à la population, c'est que la plupart de nos prestataires, les médecins, les professeurs, sont d'abord des hospitalo-universitaires, c'est-à-dire qu'ils donnent des prestations au sein de l'hôpital et ils interviennent aussi à l'université. C'est ce qui fait qu'un programme a été fait pour permettre à ces, surtout les médecins, de venir travailler à l'hôpital et d'avoir également le temps d'aller travailler à l'université pour former les jeunes cadres de ce pays. Donc, un médecin ne va pas être dans son bureau du matin au soir, du lundi au vendredi ou au samedi. Il va travailler, mais quand il est question d'aller à l'université, il va à l'université. Mais bon.
Mais s'il y a des cas urgents?
Bon, s'il y a des cas d'urgence, il y a un mécanisme qu'on a mis en place. Le mécanisme, c'est quoi? C'est d'abord le système de garde qui est là. Le système de garde qui est là pour permettre à chaque médecin, surtout ceux qui sont les médecins généralistes, de venir assurer la garde, c'est-à-dire de venir à partir de 15h30 jusqu'au lendemain. Ça veut dire que la nuit, un médecin doit être là pour répondre à des cas qui interviennent la nuit. Mais pour les médecins spécialistes, nous avons mis en place un système qu'on appelle les astreintes. C'est que le médecin, il est positionné, mais il n'est pas tenu de venir rester à l'hôpital. Comme il est d'astreinte, il peut rester chez lui, mais s'il y a des cas qui dépassent le médecin de garde qui est là, ou bien les infirmiers qui sont là, on l'appelle, et puisque nous avons une ambulance, l'ambulance va le chercher. S'il a un moyen de déplacement, il vient, il gère l'affaire.
Même dans les heures tardives également?
Évidemment, même si c'est la nuit, à 1h, à 2h du matin, nous l'avons beaucoup fait. Et le cas qui est beaucoup plus marqué dans ces situations, c'est le cas de la chirurgie.
Nous avons reçu plusieurs témoignages. Cela nous laisse croire que même dans un état critique, on dit aux malades d'attendre le médecin ou l'infirmier qui vient souvent à l'hôpital chaque 2 jours. Une ou 2 fois par semaine, comme vous venez de préciser ici.
Bon, nous avons une instance qui travaille au sein de l'hôpital, c'est le comité médical qui est dirigé par un professeur. Et donc, s'il y a de ces cas et qui persistent, on réunit le comité médical, on essaie d'attirer l'attention de la personne qui ne vient pas alors qu'il est programmé pour faire le travail et qui ne vient pas. Quand le cas persiste, nous sommes obligés parfois de prendre des mesures disciplinaires que nous avons déjà beaucoup prises pour permettre vraiment aux collaborateurs de venir sauver la population.
Alors, face à ces difficultés que vous venez d'énumérer ici, que faites-vous pour donner des soins de qualité? Est-ce que les recettes générées par votre établissement ne vous permettent pas de répondre aux attentes des patients?
Au sein de l'hôpital, nous n'avons pas que les recettes. Mais nous avons également le budget de l'État qui nous appuie, par exemple, pour alimenter les malades, acheter les réactifs, acheter du carburant dans le groupe électrogène et autres. Donc, nous faisons de notre mieux pour que ces moyens soient mis à la disposition de la population. Mais le gros problème, c'est la mobilisation du personnel qualifié. Si on a vraiment du personnel qualifié suffisant, ça nous permet aussi de mettre en œuvre, de donner vraiment les soins de qualité. Nous essayons de faire autant que faire se peut avec les moyens que nous avons pour essayer de satisfaire à la population. Et donc, par rapport à ça, nous appelons également la population et les personnes de bonne volonté de se rapprocher, de voir les différents problèmes qu'il y a et de nous faire également des propositions. Nous demandons également l'appui de nos partenaires, de nos bailleurs, des bienfaiteurs de la santé pour venir voir avec nous les différents problèmes. Par exemple, les lits qui sont anciens, ça ne peut pas, à mon avis, faire une année parce que un malade, c'est quelqu'un qui dort constamment sur le lit.
Jean Chrysostome Kété, je vous remercie.
Merci.